Oui, bonjour, Farid Jemal. Donc, je suis inspecteur adjoint à la directrice académique dans le Tarn et je me suis occupé il y a quelque temps d'éducation prioritaire à Toulouse. Je voulais avoir, enfin, j'ai une question pour Monsieur Bablé. On a beaucoup parlé du prescrit et des objectifs communs à partager et il a été précisé que les objectifs ne devaient pas être définis en amont. Et moi, je me pose la question pour les cadres. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on a pensé également à définir des objectifs pour les cadres du système éducatif? Parce que j'ai l'impression qu'on a des objectifs qui descendent très rapidement d'un ministère à des équipes dans les établissements et que la partie un petit peu, on va dire, tout ce qui est au niveau académique, au niveau départemental, c'est un petit peu une évidence. Ça ne se parle pas vraiment. Alors, je voulais savoir quel travail collaboratif pour les cadres, quel travail prescrit pour les cadres, et est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'on soit très très au clair sur la question de l'objectif qui serait celui de la même réussite pour tous, parce que je ne crois pas qu'elle soit partagée aujourd'hui par les cadres du système éducatif.
Il ne va pas le dire, mais M. Jemal vient de faire un très important et intéressant travail sur la prise de décision des cadres de l'éducation nationale, dans le cadre d'un master à Sciences Po, et venez l'embêter pour lire son mémoire. Monsieur Bablé ?
Oui, c'est dommage, j'aurais bien voulu lire le mémoire avant. Mais bon. Sur les cadres, c'est une question qui est très compliquée, parce que les cadres sont sans doute beaucoup plus que d'autres encore plus jaloux de leurs prérogatives et de leurs responsabilités, et quelque part aussi de leur pouvoir, puisqu'il était évoqué la dimension du pouvoir tout à l'heure. Et donc mettre au travail des collectifs de cadres, c'est quelque chose d'assez compliqué à réaliser. Néanmoins, on peut tout à fait penser que c'est nécessaire. Alors le parti pris qu'on en a, nous, moi je vous donne ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on essaye de faire au bureau de l'éducation prioritaire, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on a essayé de faire en sorte que les cadres d'une académie travaillent ensemble avec nous autour de la question notamment de la carte de l'éducation prioritaire. Et le seul fait de faire en sorte qu'ils soient tous autour de la table avec un tiers, parce qu'ils ont l'habitude d'être autour de la table ensemble, mais pas forcément avec un tiers, je pense que ça peut contribuer à faire évoluer un tout petit peu certaines choses, parce que nous, on est là pour poser des questions. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve quand il y a, par exemple, le phénomène du dialogue de gestion entre le ministère, la centrale et chacune des académies. Il y a là quelque chose qui se joue, qui est de l'ordre du travail collectif des cadres avec la centrale. Et donc, dans une logique où il y a de l'interrogation des uns par les autres et où on essaye de faire avancer un certain nombre de questions. Puis l'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que systématiquement, les cadres soient associés à l'ensemble du processus de réélaboration, de refondation de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que les cadres travaillent avec leurs équipes. Et par exemple, on a invité dans le cadre de la formation de formateurs qu'on conduit pour l'éducation prioritaire, on a invité à un moment donné les cadres à rejoindre les formateurs. Alors, on n'a pas forcément eu tous les cadres qu'on aurait pu souhaiter avoir à ce moment-là, mais parce qu'ils ne sont pas tous toujours libres, il y a un problème de temporalité qui est assez compliqué dans la gestion des cadres et de l'encadrement. Mais on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des moments où formateurs et cadres soient ensemble dans la même salle et puissent à certains moments échanger entre eux. Voilà. Alors j'ai pas de solution toute faite par rapport à la question que vous posez. Je suis pas sûr d'y avoir répondu d'ailleurs. J'essaye de vous dire simplement modestement ce que nous essayons de faire. Parce qu'on a bien conscience qu'il y a un sujet. Au jour d'aujourd'hui, on sent bien que dans les REP+, il y a aussi un sujet sur la relation entre les cadres, chefs d'établissement, et les professeurs. Que cette situation est extrêmement diverse sur le territoire, 102 REP+, sans doute 102, voire 103, puisqu'il y a 103 collèges dans les 102 REP+, 103 situations différentes, avec des dominantes. Hein, vous évoquiez tout à l'heure les contrôleurs et les angoissés. On n'est pas tous pareils, et donc il y a des situations extrêmement diverses sur le territoire à cet égard. Et j'ai évidemment pas de solution toute faite à ce genre de questions.
Marc Bablé, dans son propos, avait insisté sur la modestie et l'écoute. C'est déjà parce que je porte intérêt à ce que tu dis que peut-être on va pouvoir travailler ensemble. Françoise ?
Oui, juste deux mots pour dire que c'est un constat que nous faisons dans nos enquêtes, à savoir que les contradictions et les tensions qu'il y a au niveau de l'encadrement ont des répercussions extrêmement pénibles, je dois le dire, pour les enseignants qui sont, eux, sur le terrain, parce qu'ils ont des injonctions qui ne sont pas cohérentes, parce qu'ils ont des critères de jugement sur leur travail qui ne sont pas cohérents, et que cela rend vraiment très compliqué le travail. Voilà.
Dans son intervention, Marc Bablé a parlé du changement de culture de notre système entre le système vertical et le système horizontal, où c'est la cohérence du projet qui crée l'efficience, voire l'efficacité. Effectivement, nous savons tous que les questions de définition des périmètres d'intervention des différents métiers, ce que j'appelle intermédiaires, sont extrêmement complexes. Même quand la prescription est relativement claire, et on l'a bien vu à travers le référentiel et ses six axes, on voit bien que la déclinaison, c'est ce qui revient très fort aussi dans les questions que vous amenez, hein, la déclinaison académique, départementale, locale de la politique est évidemment très compliquée parce que, encore moins que les enseignants, les cadres n'ont l'habitude de ces fonctionnements-là. Et je crois que c'est avec cette évolution qui est nécessairement lente des postures professionnelles que se gagnera la capacité à travailler ensemble. Mais le « à quelles conditions » là-dessus est assez important. D'autres questions, réactions sur ce point ou sur un autre ?
Bonjour, Caroline Civalero. Donc là, j'interviens cette année en tant que professeur formateur académique. Donc j'ai un peu la même question sur ce poste-là, qui est un nouveau métier et qui est justement pas bien délimité dans son périmètre d'action et où on se confronte à la fois à d'autres métiers, à d'autres prises de pouvoir et en même temps où on doit quand même restituer quelque chose de démocratique parce qu'on est aussi collègues des autres enseignants. Et j'ai trouvé qu'en un mois de fonctionnement, cette tension était extrêmement forte et la solitude éprouvée était également extrêmement grande par rapport à ces questions-là.
Vous serez quelques-uns, vous êtes quelques-uns à être ces nouveaux professeurs formateurs académiques dans le cadre de l'éducation prioritaire. On co-construit avec la DGESCO une formation, comme l'a dit Monsieur Bablé, qui va se poursuivre les 5 et 7 novembre dans les locaux de l'ENS. Donc il y a un sujet à part entière. Mais on voit bien ce nouveau métier, comme le métier des référents, des préfets des études, etc. À chaque fois, le nouveau métier réinterroge tous les autres. C'est-à-dire leur demande de se réarticuler. C'est comme les coordonnateurs. Les évolutions du pilotage sur le rôle des coordonnateurs appliquent évidemment un certain nombre de transformations des espaces et des positions. Là-dessus.
Le seul point, c'est que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de solitude. Et que l'existence d'un collectif de professeurs formateurs est tout à fait indispensable, et aussi un débat sur la conception de ces professeurs formateurs. Sont-ils pourquoi ils peuvent être pris le bras armé de l'inspection ? Sont-ils des collègues qui sont dans une situation d'accompagnement seulement ? Sont-ils ce que certains appellent dans les relations entre université et entreprise des intégrateurs ? Des intégrateurs, hein ? Pas des intégrateurs, des intégrateurs. Et attention à ne pas devenir des désintégrateurs. C'est-à-dire des personnes qui mettent en relation des univers différents. Les univers de la prescription, de la hiérarchie, les univers du terrain et ceux de la recherche et de la formation. Voilà, je pense qu'il y a un débat là-dessus et que si ce débat n'est pas mené, des dilemmes infinis vont se poser aux professeurs formateurs parce que c'est eux tout seuls où ils vont essayer d'arbitrer entre tous ces possibles.
Bien évidemment, s'ils essayent de faire ça, il y a des chances pour qu'ils se fassent du mal.
Oui.
Non, j'ai rien à rajouter, parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel on a un travail collectif à faire, de clarification du positionnement progressivement, mais ce qu'on aperçoit là aussi, c'est qu'on a des situations académiques extrêmement diverses à cet égard. C'est-à-dire qu'on a des académies dans lesquelles on a le sentiment que le groupe des formateurs constitué fait groupe, il y a bien un effet d'un groupe de personnes qui est piloté. puis il y a d'autres académies où on a un peu le sentiment que nos collègues sont en situation de solitude et où il n'y a pas vraiment de pilotage de l'opération. Donc on sait que nous, on a une régulation à conduire. Hein, on a commencé délicatement, doucement, progressivement. On sait qu'on doit le faire. On sait que ce n'est pas facile à réaliser parce que, vu ce qu'on a dit tout à l'heure vis-à-vis de la question des relations entre cadres, ce n'est pas forcément simple toujours de se dire non plus les choses dans ces milieux-là, alors qu'il faut parfois se les dire. On l'a fait sur un certain nombre de sujets, mais on sent bien qu'il y a quelque chose à travailler.
Là-dessus, avec Michel Coulon, on a commencé à essayer d'interroger ces professeurs formateurs pour essayer de mieux comprendre leurs problèmes de travail. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, sur le site du Centre Alain Savary. Il y a quelques années, on a fait une étude comme ça sur le travail des enseignants référents et comment il y avait différentes manières d'incarner le travail de l'enseignant référent dans l'établissement. On va relancer un travail à la demande des collègues du Centre Alain Savary sur les cordeaux. Il y a aussi pour les cordeaux différentes manières d'incarner. Et on voit bien que dans tous ces métiers qui ont moins d'histoire que les métiers de professeur, il faut inventer l'histoire de métier au fur et à mesure qu'elle se construit. Et s'il y a des choses qu'on sait dans l'analyse du travail, c'est que dans le travail, il y a toujours... on n'est jamais seul, on travaille aussi avec l'histoire de son métier. Et quand on est sur une nouvelle fonction dont on ne sait même pas si c'est un métier à part entière ou si c'est un sous-métier, évidemment, il y a la question de la construction progressive de l'identité professionnelle, hein, ce qu'on appelle le genre professionnel. Et est-ce que le genre formateur à l'éducation nationale, c'est même déjà un genre? On travaille aussi en ce moment avec le bureau de la formation du ministère, de la DGESCO, qui essaie de fabriquer un référentiel du formateur académique, du premier ou du second degré. Et on voit bien que sur ces objets-là, là encore, on a des points de vue très différents. Est-ce qu'il faut qu'on fabrique un référentiel du formateur idéal, celui qu'on ne trouvera jamais, qui serait capable de tout faire, hein, de prendre la prescription et puis d'aller la mettre en œuvre dans l'établissement? Ou est-ce qu'on est capable de discuter de c'est quoi les conditions, les situations potentiellement génératrices de travail collectif dans les établissements? Et donc là, on articule, en tout cas nous c'est le travail qu'on essaie de faire au Centre Alain Savary, quelles sont les situations qui sont potentiellement fructueuses en matière de formation et quelles sont donc les compétences des personnes qui doivent être les animateurs de ce travail. Et je reprends le terme de Marc Bablet sur il y a des pilotes et puis il y a des animateurs du travail et c'est pas forcément les mêmes. Et bien évidemment, quand on est formateur, on a toujours des problèmes d'adducteurs. Hein? Est-ce qu'on est du côté du patron ou est-ce qu'on est du côté des ouvriers? On ne sait jamais vraiment. Ça fait partie des dilemmes du travail du formateur. Il nous reste 20 minutes sur cette séquence. Vous avez relu, sans doute pour quelques-uns, le verbatim des réponses qu'on vous a envoyées en fin de semaine au questionnaire. Vous voyez que ces préoccupations avec lesquelles vous êtes venus, on est tout de suite dedans. Hein? Donc encore une fois, soit pour exprimer... à nos orateurs un point de vue, soit pour avoir une remarque, enrichir la discussion, faire part d'une préoccupation saillante.
Bonjour, je suis Stéphanie Thiveux, je suis directrice d'une école maternelle à Villeurbanne. Et en fait, j'aimerais revenir avec vous sur plusieurs phrases qui ont été dites ce matin, notamment une des dernières, soutenir l'existant plutôt que de prescrire l'idéal. Donc par rapport à soutenir l'existant plutôt que prescrire l'idéal, donc moi je voudrais revenir sur des textes qui sont parus récemment, donc par rapport notamment à la refondation du système prioritaire et pour les écoles maternelles, l'accueil sans limite et sans condition de tous les enfants de 2 ans. Et à la proposition des programmes que nous avons eu à travailler récemment avec le bien-être des enfants mis en exergue pour les écoles maternelles. Et nous avons par exemple, nous, une école qui accueille 300 élèves, avec un bâtiment modulaire pour 60 des 300 élèves, plus des élèves de 2 ans à accueillir sans limite. Et je reviens donc du coup sur la dynamique de confiance plutôt que toujours, on va dire, essayer de contrôler. Ma demande est, est-ce que par exemple, ce serait pas possible de regarder sur le terrain qu'un, par exemple, quand un accueil d'enfants de 2 ans engendre une situation... un bien-être vraiment amoindri pour les 240 autres élèves de l'école, est-ce que ça ne peut pas être discuté parce que du coup, on reçoit ça, on va dire, en bas, et après, on a beaucoup de mal à essayer de faire remonter, nous, les problèmes qui sont existants chaque jour de l'année.
Oui, moi, je peux réagir à ça, peut-être, hein, parce que... Mais je vais pas tellement réagir de la place que j'occupe aujourd'hui, qui est celle de la DGESCO, chef du bureau d'éducation prioritaire, que comme ancien DASEN adjoint de Seine-Saint-Denis. Il y a eu une époque où en Seine-Saint-Denis, on accueillait 35% de la classe d'âge de 2 ans, puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, avec les suppressions de postes, ça s'est réduit à zéro et c'est en train de remonter progressivement. Mais on avait fixé des conditions. C'est-à-dire qu'on a fixé des conditions, c'est-à-dire que les conditions qu'on a fixées, c'est effectivement... Bon, d'abord, il y a des conditions classiques de l'accueil des 2 ans qui me semblent nécessaires de prendre en compte. C'est notamment la question de la propreté. On accueille les 2 ans dès lors, effectivement, qui sont propres. C'est-à-dire on n'accueille pas tous 2 ans et pas sans limite. Si vous voulez, quand je vous ai entendu dire sans limite, j'étais un tout petit peu inquiet. La deuxième chose, c'est qu'il faut se donner les conditions de cet accueil. Et il faut effectivement, avec les collectivités territoriales, avoir des discussions sur les conditions d'un bon accueil des 2 ans. Je pense que ce travail-là doit pouvoir se faire à Villeurbanne ou ailleurs. Il y a un travail à faire avec la collectivité territoriale, à la fois sur la question de l'encadrement en termes d'ATSEM et à la fois sur la question des locaux, de l'usage des locaux qu'on a à disposition. Ce qui ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas être volontariste dans l'accueil des 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon équilibre, si vous voulez, entre la qualité de l'accueil des 2 ans, à la fois sur le plan de la professionnalisation des enseignants, parce que je pense qu'avec le temps, on a quand même perdu un peu de professionnalité en école maternelle sur la question de l'accueil des 2 ans. On a de la professionnalité à retrouver pour l'accueil des 2 ans dans les écoles maternelles de l'éducation prioritaire. Il y a sans doute besoin de formation à cet égard. Et il faut des plans d'accompagnement, de formation sur la question de l'accueil des 2 ans. Il faut du travail avec les collectivités territoriales pour que le travail ATSEM, dont il était dit tout à l'heure qu'il n'allait pas de soi, le travail ATSEM enseignant puisse se reconstruire autour des 2 ans, peut-être d'une manière un tout petit peu différente. Il n'est absolument pas le même qu'avec une grande section, par exemple, évidemment. Donc voilà, il y a des choses à faire, certainement, pour aller vers des conditions de réalisation qui soient satisfaisantes. Et le but n'est pas d'y aller, à mon avis, sans limite et sans conditions. Je regrette que ça puisse effectivement se produire ici ou là.
Il faudrait lever la main aussi la rangée de gauche, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours moi.
Oui, bon, c'est une plus petite rangée peut-être alors. Sarah Gourfin, je suis coordonnatrice et maîtresse supplémentaire dans un REP plus à Angers. Je vais continuer sur le sujet qu'évoquait la collègue. J'ai remarqué quand vous nous avez renvoyé les questionnaires auxquels qu'on avait remplis, l'an dernier on a beaucoup parlé du temps pour travailler collectivement, et est arrivé l'espace. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose auquel on est vraiment confronté tous les jours. Il ne suffit pas d'avoir le temps, il faut savoir où on travaille. Que ce soit chez nous, que ce soit au collège ou dans les écoles, c'est toujours un problème parce que il faut pouvoir travailler en dehors des horaires. C'est compliqué d'avoir une clé et on finit par tricher. On finit par tricher parce que nous, on fait 2 jours de pré-rentrée au lieu d'en faire un, parce qu'on nous l'octroie, mais on fait ça entre nous, parce qu'on vient travailler pendant les vacances et qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire, mais j'ai fini par négocier une clé, parce que la mairie ne veut pas que nous mettions les ordinateurs dans notre salle des maîtres. C'est interdit. On a triché, on a pris un, on l'a mis, celui de la bibliothèque. Et tout ça, c'est pour pouvoir travailler ensemble. Et finalement, c'est quand même encore dans le premier degré qu'on arrive le plus à se retrouver. On a fini par renoncer sur nos groupes interdegrés, souvent à travailler au collège, parce qu'alors, en dehors des horaires, c'est très compliqué. J'adore la gardienne, elle est super sympa. Mais voilà, il y a des horaires, faut demander, faut faire des horaires spécifiques, etc. C'est plus simple quand ils viennent dans ma classe. Moi, j'ai la clé, on peut partir plus simplement. Est-ce qu'il y a, au niveau, je sais pas, politique de la ville, notamment, des discussions en cours avec les maires pour qu'ils puissent prendre conscience, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux, conscience de la nécessité que le changement de nature de notre travail, la nécessité de travailler collectivement, doit être acté. Nous, on arrive sur une restructuration, et on l'a dit, pour la restructuration, nous avons besoin de locaux collectifs de travail. On aimerait bien être concertés là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cours? pour les inciter à y réfléchir avec les enseignants et les équipes en général. Mais on a le problème sur le quartier avec les partenaires. On ne sait pas toujours où travailler.
Oui, là encore, c'est une question qui est très importante et qui n'est pas simple, parce que on a une situation actuellement dans le pays qui est une situation d'école existante avec des locaux extrêmement contraints, et notamment en milieu urbain. Et si on prend le centre-ville de Paris, par exemple, c'est particulièrement caricatural. À cet égard, on est sur des écoles anciennes, avec de nombreux étages, et souvent des situations de locaux, de manque de locaux, qui sont absolument criantes. Si on évoque en revanche la construction de bâtiments nouveaux, et la construction d'écoles nouvelles, la construction de collèges nouveaux, en principe désormais, me semble-t-il, assez largement, il est reconnu par les collectivités territoriales elles-mêmes, la nécessité de construire différemment de ce qui se faisait dans le passé. Donc il y a d'un côté l'héritage assez lourd, et il y a d'un autre côté des ouvertures assez importantes. Enfin, moi j'ai travaillé là, le département de Seine-Saint-Denis, par exemple, vient d'ouvrir 7 nouveaux collèges à cette rentrée et de créer 7 nouveaux collèges à cette rentrée. On avait travaillé avec eux sur les schémas directeurs de construction de ces établissements, et on avait bien mis la nécessité du travail collectif et également la nécessité de l'ouverture possible sur le quartier et sur des horaires différents. Et donc ils ont conçu des locaux dans lesquels il y a par exemple toujours une salle partageable à n'importe quelle heure, dès lors que quelqu'un en prend la responsabilité et qu'on signe la convention qui va bien pour en prendre la responsabilité, signe salle qui doit être du coup séparée du point de vue de l'alarme du reste du bâtiment, parce que vous voyez que derrière des questions simples comme celles que vous posez, il y a toujours des questions compliquées d'articulation entre différents niveaux de responsabilité. Et donc, effectivement, on essaye de penser des choses de cette nature. Maintenant, il n'y a pas de prescription nationale en matière de bâti scolaire, parce que le bâti scolaire est une compétence des collectivités territoriales. Et donc, il n'y a pratiquement jamais eu... Il y en a eu à un moment donné, hein, dans l'histoire, quand l'État était lui-même bâtisseur. Il avait ses propres prescriptions. Et puis, petit à petit, on est passé à la responsabilité des collectivités territoriales et on a perdu la prescription. Les derniers textes de prescription dont je me souviens, c'est ceux pour les internats à la période des années 2000. Je crois que c'était sous Jack Lang, il y avait eu un texte qui disait « Voilà ce que doit être un internat aujourd'hui ». Mais depuis, à ma connaissance, il n'y a plus de textes nationaux. En revanche, il y a des associations de collectivités, ADF, ARF notamment, et AMF, qui travaillent sur ces questions-là. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on arrive à convaincre de la nécessité de travailler ces questions.
Françoise ?
Juste deux mots pour dire que ces remarques, la précédente et puis celle-ci, montrent que quand on a l'impression de se situer à un niveau tout petit du travail, hein, et en fait ça renvoie à des questions politiques plus fondamentales, à des choix politiques, à la question des impôts, de la répartition des revenus, de la redistribution, de qu'est-ce qu'on fait des impôts, des choix qui sont faits au plan politique, et surtout des débats qui peuvent y avoir sur qu'est-ce que c'est qu'un critère de qualité pour les enseignants. Et ça amène à réfléchir au fait que ce débat-là, il doit être interne aux enseignants, mais pas seulement. Si les enseignants ne parviennent pas à faire prendre en compte par la sphère sociale et politique du fait que pour faire du travail de qualité, il y a un certain nombre de conditions à réunir, et en débattre ça publiquement avec les parents, avec les élus, tout ça, eh bien, ces questions qui semblent des petites questions ne peuvent trouver de débouchés. Voilà, donc c'est pour faire le lien entre l'affirmation que j'ai souvent selon laquelle le travail c'est politique et des micro-problèmes que nous gérons en permanence dans le travail. C'est politique parce que ça a à voir avec la démocratie, parce que ça a à voir avec qu'est-ce qu'on considère comme le bien commun, et que ça, ce sont des questions politiques qui excèdent le groupe professionnel.
On voit bien que travailler, c'est toujours s'occuper des détails. Moi, j'ai la coutume de dire, quand j'accompagne des groupes de formateurs, c'est quand on regarde les détails des choses qu'on comprend la complexité des situations. Mais ce que dit François, ça interroge aussi les groupes professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, La tradition, quand on est enseignant, c'est de s'adresser à l'autorité et de dire que fut la police. Et généralement, comme on a l'habitude d'un système centralisé, on dit y a une autorité tutelle qui doit répondre à la question. On est dans une réorganisation des systèmes, où il y a des systèmes qui sont nécessairement partenariaux, de plus en plus partenariaux. Et donc la question qui se pose, et là que je me permets de renvoyer au groupe professionnel des enseignants, c'est quelle organisation collective ont les enseignants pour que ces questions-là soient traitées? Les gens qui représentent les enseignants, a priori, c'est les syndicats d'enseignants, les associations professionnelles d'enseignants. Comment se débrouillent les associations professionnelles, les syndicats, pour que ces questions-là soient portées devant la place publique, non pas sous la forme exclusivement de dire « je refuse d'eux », mais à quelles conditions? Et donc la question, par exemple, on voit bien des locaux, hein, aujourd'hui, les locaux collectifs. On pourrait parler de l'impact de la réforme des rythmes sur l'organisation du travail dans l'école. C'est des choses. Et on voit bien que là, le groupe professionnel, en fait, doit faire valoir ses droits, mais pas seulement ses droits, en disant, et je reprendrai la question que Françoise indique, en disant à la société, mais alors quelle école vous voulez? Et si on veut bien s'engager ensemble dans l'école de la réussite de tous, et en particulier des plus pauvres, qu'est-ce que ça implique comme condition d'exercice, mais pas seulement pour les enseignants, pour l'école en général? Et là, cette question des temps, des espaces, des lieux, des outils, elle est en permanence posée. Mais je veux dire, c'est aussi la responsabilité du groupe professionnel de la poser. À chaque fois qu'un groupe professionnel veut s'attaquer à une chose qu'il n'arrivait encore pas tout à fait à faire, il n'est pas forcément légitime qu'il attende que les réponses viennent exclusivement de l'extérieur. C'est aussi dans sa capacité à coordonner ces priorités-là. Mais alors, vers quoi on veut aller? Et alors, du coup, de quoi on a besoin? Et du coup, qu'est-ce qu'on exprime publiquement dans le débat politique sur l'école? Il nous reste 7 minutes. Stéphane va en profiter pour vous parler d'une petite ressource qu'il a fabriquée sur conditions vives du partenariat et comment on travaille aussi cette question du partenariat. Peut-être c'est juste le moment d'en dire un mot.
Je voulais juste rebondir par rapport à la question de madame sur l'école maternelle, l'accueil des 2 ans. Il me semble qu'il y a aussi une question de comment on travaille avec l'IEN de la circonscription et comment l'IEN de la circonscription travaille avec les collègues sur le terrain. Avec cette idée, j'étais assez surpris. On était vendredi avec une directrice de mission locale, pas loin de Grenoble, et qui disait, moi, comme directrice de mission locale, mon premier job, c'est de faire barrage pour que les collègues puissent travailler. Et j'ai rencontré beaucoup d'IEN avec qui j'ai bossé quand j'étais instit, qui faisaient effectivement barrage à un moment donné pour qu'on puisse travailler. Et c'est toute la question, est-ce que la hiérarchie directe, à un moment donné, continue à faire des fois écran, espace de filtration, de traduction de tout ce qui arrive d'en haut? Voilà. Ça me semble être un élément important pour que le travail puisse se faire.
Il nous reste 5 minutes.
Et donc, juste pour continuer sur ce que disait Patrick, donc vous avez un certain nombre de ressources que le Centre Savary a produites à différentes occasions, qu'on a mis à votre disposition. Donc il y a 4 livrets. Un livret où on a essayé de rassembler tous les textes de problématisation qu'on a produits au moment des assises de l'éducation prioritaire. On a essayé de problématiser chacune des axes qui étaient proposés à la réflexion des acteurs avec les différents travaux de recherche qui pouvaient éclairer ces questions. Un deuxième livret, enfin, il y en a 2 en fait, c'est 2 rapports de séminaire sur les questions vives du partenariat. Celui de juin 2013 où on a essayé de travailler avec les acteurs locaux, donc que ce soit les municipalités, les coordonnateurs de la politique de la ville, des coordonnateurs d'éducation prioritaire, des IEN, des chefs d'établissement, sur comment on peut travailler ensemble sur un territoire vers un projet éducatif partagé. Deuxième qui concerne plus les niveaux institutionnels, justement, on prescrit le partenariat sur le terrain, mais à quelles conditions aussi des institutions au niveau d'une commune, au niveau d'un département, au niveau d'une académie, peuvent aussi travailler ensemble. Et ça, c'est aussi compliqué. Et enfin, un dernier livret, qui est un livret de présentation du réseau national de lutte contre les discriminations à l'école, que porte le Centre Alain Savary, et où on a essayé de synthétiser un petit peu toutes les questions qui renvoient à toutes les manières dont le système éducatif produit encore beaucoup d'inégalités. Voilà.
Moi, j'ai juste une dernière remarque à faire. Donc, je suis enseignante en histoire-géographie dans un collège éclair, donc qui n'est pas encore passé en REP+. Et je constate quand même que souvent, quand on veut travailler collectivement, il y a aussi la question du sens et de l'intérêt qu'on va y trouver à ce travail collectif. Et parfois, quand on nous propose des réunions et du travail collectif, on parlait de réunionnite aussi, si ça n'a pas d'intérêt, si ça ne fait pas avancer notre travail au quotidien, moi, je vois pas trop le sens. Et des fois, cette impression de résistance, entre guillemets, hein, je mettrai des guillemets des enseignants, c'est aussi parce que on a été abreuvé aussi de formations, parfois, qui ne nous servent pas au quotidien, ou ne nous parlent pas, où on a l'impression de perdre notre temps. Donc, moi, ce que je constate un peu sur le terrain, c'est que les formations qui marchent, c'est celles aussi où on sait proposer des choses qui parlent aux enseignants.
Nos deux intervenants avaient insisté sur la question du sens et du sens partagé qui n'est jamais défini.
Juste un petit mot pour dire merci à monsieur. Je suis Sylvie Amador, IEN, inspectrice donc au Mureau. Je fais partie des cadres de l'éducation nationale. Et le tableau qui avait été fait un petit peu là jusqu'à présent me mettait un petit peu mal à l'aise. Il y a des IEN qui ne sont ni des angoissés ni des contrôleurs ou uniquement cela. Il y a aussi des IEN qui travaillent avec leurs équipes et leurs écoles, avec les équipes d'enseignants, avec les formateurs REPLUS, avec leurs coordonnateurs et qui essayent d'animer un travail collectif pour que le travail en éducation prioritaire ne soit pas source de souffrance uniquement, mais aussi de beaucoup de plaisir. C'est ce que j'essaye de faire depuis plusieurs années au Mureau. D'ailleurs, j'en parle tout à l'heure à 13h30.
À 13h15. Et vous serez
13h15,
à
13h15.
Oui, je m'excuse, je reprends la parole. En écoutant donc les deux interventions ce matin, je me suis dit que les deux discours pouvaient s'adresser à toutes les écoles de France. Alors je m'étais promis de ne pas parler de ce sujet-là, mais je ne peux pas m'en empêcher, donc j'y viens. Cela veut dire peut-être qu'il y a une spécificité de l'éducation prioritaire qu'on ne discute pas souvent, c'est celle de la mixité. Donc je voulais savoir si par rapport à ce travail ensemble, à ce travail collectif, il y avait des initiatives concrètes et réelles d'organiser une réelle mixité. Parce qu'il me semble que cela constitue une complexité pour les enseignants et pour notre système éducatif. Alors, par rapport à ça, je voulais aussi poser deux petites questions sur la continuité, sur la nécessaire continuité pour les élèves et pour les enseignants. C'est pour essayer justement de peut-être accompagner davantage. Il y a deux choses qui me choquent un petit peu dans l'éducation prioritaire que je connais. C'est que les élèves de l'éducation prioritaire ont moins de jours d'école que les autres, très très fréquemment. Et qu'on n'en parle jamais. Ils ne sont jamais là à la rentrée, ils ne sont jamais là après les vacances, enfin, ils sont toujours absents. Et parfois, ça peut aller jusqu'à un an de scolarité en moins, si on regarde les choses de très près. Mais je ne sais pas si on a envie de le regarder. Donc je le dis aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de regarder ces choses-là. Et sur la continuité pour les enseignants, je me pose la question de comment les enseignants ont-ils accès à l'information et aux questions de la formation. Ce qui me surprend dans l'école aujourd'hui, c'est que, en tous les cas, pour les directeurs d'école, et là, de façon générale, pas seulement en éducation prioritaire, ils ont peu de temps à consacrer à la lecture des textes officiels, des textes de la recherche. Et je me demandais comment l'institution pouvait mettre à disposition ces informations ou ces résultats de la recherche pour que les directeurs puissent quand même être acculturés, être dans une dynamique, dans une continuité et ne pas vivre des ruptures successives, alors qu'il y a de la continuité dans notre système éducatif tout de même.
Donc sur la question de la mixité, je suppose qu'il s'agit bien de la mixité sociale, parce que sur la question de la mixité sociale, c'est vrai que on recommande d'aller vers la mixité sociale. Il y a une recommandation, c'est désormais inscrit dans la loi. Là aussi, c'est l'article 2 de la loi de refondation. Donc comment procéder ? La première cause de la non-mixité de nos établissements scolaires, c'est la non-mixité de l'urbain. Donc il y a un travail à faire qui n'appartient pas à l'éducation nationale, en tout cas pas seul, autour de la question de la rénovation des quartiers, de la reconfiguration de l'espace de la France, question hautement politique, comme le disait Mme Lantôme, qui mérite un travail de fond. On va inciter sans aucun doute à ce que dans les contrats de ville, les recteurs qui en seront signataires disent un mot de ce sujet-là, ou en tout cas fassent en sorte qu'un mot soit dit de ce sujet-là, dans chacun des contrats de ville, parce que ça nous paraît important que cette question soit traitée. Maintenant, il y a un deuxième aspect à la question. Dans un certain nombre de sites, la mixité, l'absence de mixité vient du fait qu'il y a à côté de l'école publique des écoles privées qui sont capables d'une efficacité qui séduit certains publics. Donc on a sans doute sur cette question-là un travail d'image à travailler, parce que bien souvent l'école publique est d'aussi bonne qualité que l'école privée, voire parfois dans un certain nombre de cas meilleure, à situation sociale égale. Et donc on a sans doute un travail à faire par rapport à la question de l'image de cette école publique. Enfin, la question de la mixité est liée également à la question de la sectorisation que nous avons désormais entre les mains des maires pour ce qui est des écoles, entre les mains des conseils généraux pour ce qui est des collèges. Nous avons gardé la compétence sur les lycées. Et il y a effectivement un travail à faire sur cette dimension-là avec les collectivités territoriales. Bon, sur la question de l'accès à des recherches, alors moi, pour ce qui est de ce que nous en faisons, nous, mais alors vous en discuterez avec Patrick Picard, qui a sûrement une idée très précise sur cette question de l'accès de la recherche et l'accès par des métiers intermédiaires à la question des recherches, parce que est-ce qu'il faut tant avoir accès à la recherche dans son état brut, ou est-ce qu'il faut pouvoir discuter de cette recherche justement dans des collectifs de travail avec des personnes qui assurent un rôle un peu de passeur vis-à-vis de la recherche. Enfin, bon, moi j'ai participé à des situations dans l'éducation prioritaire dans lesquelles on avait des chercheurs qui étaient présents et qui accompagnaient des travaux d'équipe de façon très intéressante, et ça a donné lieu à des perspectives de travail tout à fait passionnantes dans un certain nombre de lieux. Pour autant, ce modèle n'est pas duplicable à l'infini, parce que les chercheurs sont pas très nombreux, et puis ils ont aussi autre chose à faire, même ceux qui s'occupent d'éducation, qu'être exclusivement avec nous. Ils ont aussi besoin de leur travail international, d'aller lire, d'aller travailler avec d'autres, enfin d'autres chercheurs, je veux dire. Enfin voilà. Donc ils ne peuvent pas être en permanence avec nous. Donc on a besoin de passeurs de la recherche. On essaye de ce point de vue-là d'outiller notamment les formateurs avec lesquels on travaille, en leur donnant des références, en leur donnant des ressources à cet égard. On essaye de développer un site de l'éducation prioritaire. Désormais, le site de l'éducation prioritaire rénové, dans lequel, contrairement à ce qui a pu être dit à un moment donné, nous avons bien gardé des tas de choses anciennes de qualité qui permettent effectivement de se référer à des travaux de recherche bien antérieurs à l'actualité immédiate et qui ont donné des choses tout à fait passionnantes, parce que beaucoup des choses que nous disons aujourd'hui, nous les réinventons à partir de travaux qui peuvent avoir parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui. Donc voilà quelques pistes que nous donnons pour avoir accès à des recherches. Je ne pense pas qu'il y ait un problème, si vous voulez, d'accès aux recherches, au sens de les recherches seraient pas accessibles. Elles sont extrêmement accessibles avec Internet. Beaucoup de choses sont accessibles sur Internet. Notre problème, c'est plutôt qu'est-ce qui peut m'être utile dans ce que je fais. Et là, de ce point de vue-là, nous pouvons pas forcément nous dire ce qui peut être utile à chacun d'entre vous.
Je pense qu'on va poursuivre cette discussion au cours des deux jours et sûrement après. Alors, trois choses. Un, merci beaucoup. Vous avez insisté sur la clarté des mots. Et je pense que tout le monde a apprécié le fait que vous puissiez parler très directement et sans jargon de vos points de vue. Et ça va nourrir notre activité. Encore une fois, je souhaitais qu'on ait ces deux points de vue-là au début de notre travail. Donc, merci beaucoup.